appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. La direction du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI vient de rétrograder et licencier certains agents et cadres de cette entreprise. C'est là dans les cadres de la réforme de cette institution publique. D'après la direction générale, il s'agit là d'une décision visant non seulement à rendre justice et privilégier la méritocratie, mais également à juguler la pléthore d'agents non qualifiés. En même temps, la direction annonce le recouvrement forcé des créances accordées aux tierces. Certains observateurs critiquent cette démarche, d'autres la soutiennent. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Et Polydor Basunga est à la mise en onde de cette émission réalisée par Piro et la Mégie. Nico Kalambay est au standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Labung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios pour échanger de manière citoyenne avec vous, chers auditeurs, Monsieur Jean-Claude Kalenga Makonga, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Jean-Claude.
Bonjour.
Alors, vous êtes assistant du DG de FPI. Le temps peut-être de nous éclairer et d'entrer des jeux. Comment réagissez-vous face aux critiques qui sont formulées par rapport à la démarche menée par la haute direction de FPI?
Je pense que les décisions qui ont été prises sont des décisions tout à fait objectives et des décisions qui sont fondées sur des résolutions, sur les observations et les recommandations de la mission d'enquête parlementaire qui était passée au FPI il y a bientôt, je crois, 2 ans. Cette enquête parlementaire a fait des recommandations. Et quelles recommandations? La nouvelle équipe dirigée par Patrice Kitebi, quand elle est arrivée, n'a pas voulu les ignorer. Elle a pris en compte ces recommandations de l'enquête parlementaire. À son arrivée au FPI, la nouvelle équipe dirigeante a jugé bon de faire un constat, un état des lieux. Et c'est à l'issue de ces ateliers d'état des lieux du FPI, lesquels ateliers d'ailleurs ont été menés et conduits par les agents. Donc ce sont les recommandations des agents en 2016, en décembre, qui ont fait de l'autocritique de la gestion de leur propre entreprise depuis que le FPI existe, et surtout qui ont décrié certains comportements, certains modes de gestion, surtout dans la gouvernance. Et c'est ainsi que, à l'issue de ces ateliers, des recommandations ont été faites, formulées. Merci beaucoup. Parce qu'il y a eu plusieurs thématiques sur la gouvernance, la maîtrise des charges, l'évaluation et la gestion des risques, la mobilisation de ressources, l'éthique, etc. Et ce sont ces thématiques. Dans une des thématiques, on trouve la gouvernance. Et c'est là qu'il a été décrié, surtout à la direction de ressources humaines. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur la gestion hasardeuse des carrières. Il y a aussi des promotions avec des enjambements, des promotions fondées sur le favoritisme, etc., etc. Et les agents ont recommandé à la nouvelle équipe qui est arrivée de vraiment fournir un effort pour appliquer ces résolutions. Il y a eu plusieurs résolutions. Ces résolutions ont été coulées sous forme d'une feuille de route parce que la nouvelle équipe ne veut pas naviguer à vue. Il y a une feuille de route qui suit Parmi les recommandations, 95% des recommandations ont été réalisées. La dernière des recommandations qui prenait encore du temps parce que c'était une recommandation très sensible et que cette recommandation a été menée pendant une année pour pouvoir la recommandation qui était au niveau des états des lieux qui demandait à ce qu'on crée une commission et que cette commission puisse analyser au cas par cas la situation des promotions des grades de certains agents qui a créé de frustrations auprès des autres agents qui étaient dans la démotivation, qui étaient frustrés, etc., etc. La recommandation. Donc, la nouvelle direction générale du FPI conduite par Patrice Kitebi n'a fait que exécuter et appliquer ces recommandations.
Voilà. Aujourd'hui, on reproche à la haute direction de vouloir licencier, rétrograder ces agents qui ont bénéficié d'ailleurs de cette promotion par la direction qui a précédé celle-ci.
Oui, j'aimerais qu'on fasse un distinguo. Il ne faudrait pas confondre, parce que les mêmes recommandations. Il y a dans le passé l'ancienne direction qui poursuivait le contrôle de titres académiques. Mmh. Et la résolution, l'une des résolutions, c'était de demander à ce que la nouvelle direction continue le processus pour dénicher tous les faussaires.
Donc ce n'est pas la chasse aux sorcières,
non,
les agents qui étaient avec l'autre direction qui...
Non, dans les passés, nous connaissons même des agents qui étaient très proches. Par exemple, de l'ancien PCA, des anciens mandataires qui ont été, dans le passé, révoqués parce qu'on a découvert que leurs titres académiques étaient faux. Mmh. Et ces personnes sont parties. Et les agents avaient applaudi ces décisions.
Mais le vrai problème, au lieu de s'attaquer au vrai problème, notamment les recouvrements de créances accordées aux tierces, d'aucuns vous reprochent la direction des FPI aujourd'hui de chercher le pouce sur la tête des gens. En tout cas, c'est la mauvaise cible. Parce que la cible, c'est que il y a des autorités qui ont reçu de l'argent auprès des FPI, les FPI qui a du mal aujourd'hui à recouvrer ses droits.
Non, c'est parce que je crois que l'opinion n'est pas très informée. Je crois qu'il y a moins de 2 mois, vous avez appris dans la presse qu'il y a même des promoteurs de nationalité étrangère qui ont été appréhendés par les efforts du FPI. L'année écoulée, c'était l'année...
Mais qu'en est-il de l'enquête menée par les parlementaires avec un rapport qui a été transmis au niveau des FPI, 140 millions de dollars, il fallait être recouvré.
Non,
combien vous avez recouvré?
Non, s'il vous plaît, je commence par une... La suite de ce rapport, il n'appartient pas au FPI de donner la suite.
La commission...
Conclusions de l'enquête parlementaire ont été soumises aux autorités compétentes, avec des recommandations précises. Il n'appartient pas à celui qui arrive pour dire « nous allons faire ceci, cela ». Mais il n'ignore pas du tout les recommandations qui ont été formulées. Et ces recommandations, dont celle-ci. Mais pourquoi est-ce que on ne nous reproche pas de poursuivre des promoteurs aujourd'hui? Nous passons du temps, le service juridique, à travers les couloirs des cours et tribunaux pour essayer de recouvrer justement ce montant qui n'est pas un montant. Aujourd'hui, l'administration Kitebi poursuit, se bat contre des antivaleurs. On devrait plutôt l'encourager. On devrait plutôt le soutenir dans cette action, dans le sens que depuis une année qu'il est à la tête, nous avons mis sur place la commission.
Est-ce que l'entreprise aujourd'hui n'a pas de problème de trésorerie?
Non, mais l'entreprise, il ne faut pas voir la situation comme elle est maintenant. Ces problèmes de trésorerie
datent
de très longtemps. Et ces problèmes aujourd'hui, il y a des financements qui ont été donnés par
aux uns aux autres,
et que selon le principe de continuité des services publics de l'État, nous sommes obligés d'apurer d'abord ces engagements pris par des précédents et ensuite, nous allons aussi.
Impulsé. Merci beaucoup, Jean-Claude Dalenga. Nous vous gardons le temps pour nous de sillonner à travers le pays et à l'étranger pour recueillir le point de vue des uns et des autres par rapport à ces débats citoyens autour de la réforme qui est engagée au sein du FPI, le Fonds de promotion pour l'industrie. 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, J.R.
Quelle est votre contribution?
Bon, par rapport aux interventions de notre invité, votre invité, en fait, afin que je sache, le FPI, c'est le Fonds pour la promotion des industries. Mais à mon sens, en tant que coordonnateur de la dynamique des jeunes éveillés pour la République, j'ai dit que le FPI est aujourd'hui le fonds des politiciens pour les impunités. Pourquoi j'ai dit cela, monsieur J.R.? Parce que le FPI est la seule structure créée par l'État pour financer le développement industriel de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cette institution octroie les crédits aux créanciers insolvables et surtout aux politiciens. C'est-à-dire, c'est devenu une institution partisane. Or, le financement du FPI constitue une ressource préaffectée qui doit, en tout état de cause, être respectée, en dépit du fait que pour les besoins de son fonctionnement. Toute affectation doit être conforme à certaines règles élémentaires et tenir compte des besoins réels du service, au risque de paralyser, n'est-ce pas, la capacité financière du FPI. Parlons-en. Les recommandations telles que énoncées notre invité de la radio, il nous dit il fallait contrôler le titre académique, il fallait dénoncer les fausseurs, il fallait les recouvrements, tout ça, machin. Mais, sont sérieux. Rappelez-vous de l'affaire Obem Inaku, son père. Est-ce qu'il a été solvable à l'égard du FPI? Rappelez-vous, n'est-ce pas, de l'affaire Germain Kambinga face au FPI. Donc, en tout cas, c'est devenu une institution partitocratique, c'est devenu une institution de la majorité présidentielle. Et puis, parlons-en, M. J.R. Votre invité nous dit qu'il fallait, faire les recouvrements, ou soit il fallait contrôler les titres académiques pour engager. Où est-ce qu'ils avaient affiché les offres d'emploi pour les nouveaux employés?
Oui, parce qu'il a dit c'est une réforme qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que même les prédécesseurs l'ont fait, et il reste dans la logique de principe de continuité de la chose publique.
Mais le recrutement doit être neutre, monsieur J.R. Le recrutement ne doit pas se faire dans sa chambre.
Oui, parce que s'il y a un problème de trésorerie qui est lié directement à la masse salariale, je crois qu'il était quand même impérieux ou encore logique de pouvoir procéder à la réforme et aussi assainir un peu ces niveaux pour retrouver ne fût-ce que de l'argent afin de faire face à ces problèmes de trésorerie.
Mais monsieur J.R., moi je pense que la réforme doit être manifeste. La réforme ne doit pas être latente. Donc, votre invité est au bout de souffle et il ne nous a pas éclairé s'agissant de l'enquête parlementaire des 40 millions. Merci. Et il dit que ce n'est pas au FPI de nous dire tout ça. Et puis la suite, nous, par exemple, les jeunes éveillés, où nous serons si réellement ces 40 millions ont été réaffectés, ont été restitués au FPI. Et donc beaucoup. C'est une institution qui octroie les crédits aux insolvables et surtout aux politiciens pour remplir leurs poches et aux intérêts égoïstes. Voilà position de Marcel Kadimba, le coordinateur de la MINJV pour la FPI.
Merci beaucoup Marcel. Alors Alain Bolodjoa, vous êtes en Bandaka. Face à ces deux opérations, le licenciement de certains agents et aussi la direction qui annonce le recouvrement forcé des créances accordées aux tierces. Comment vous réagissez, Alain?
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour à votre invité. Je crois que je viens d'être séduit par son discours. Il a tenté d'expliquer la démarche combien louable du comité de gestion actuel, bien qu'il a voulu aussi voiler la responsabilité de ceux qui ont été là avant, mais ce qui est vrai. Nous devons saluer l'initiative, bien que je le prends avec des pincettes. compte tenu de certaines réalités que nous vivons sur le terrain. Je prends les cas de services standards au niveau de la fonction publique. On nous a dit ici qu'on avait l'intention de rajeunir l'administration publique. On nous a dit ici que cette démarche allait dans le sens d'améliorer aussi les conditions de travail. On nous a dit que c'était pour la méritocratie, mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était plutôt une chasse aux sorcières pour permettre à ce que les cousins, les épousettes, les neveux et consorts puissent aussi avoir des espaces. C'est ça, en fait, la réalité du Congo. Il n'y a pas longtemps, nous avons débattu sur le recrutement qui a été opéré au niveau de la justice. Et vous savez mieux que moi qu'il y a des gens qui ne méritent pas, qui ont été des juges,
oui, les cas
et
des
qui
concerts,
ont sanctionné
voilà.
des gens à défaut. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas rétablis dans leurs droits. Alors, en ce qui concerne le fonds pour la promotion de l'industrie, comme je l'ai dit tantôt, naturellement, toute institution, et surtout une institution financière, bien que non bancaire, doit veiller sur sa situation de trésorerie, où on met d'une part le recette d'exploitation et d'autre part les dépenses légères d'exploitation. Lorsque nous prenons le fonds monétaire, le fonds pour la promotion de l'industrie, c'est-à-dire, c'est une prêteuse en fait. Elle donne des financements aux entreprises pour faire la promotion de l'industrie, pour faire en sorte que le pays soit effectivement industrialisé. Et lorsque nous prenons la répartition géographique des agents, en principe, nous devons avoir le fonds de promotion de l'industrie dans toutes les provinces. Il faudrait qu'il y ait une représentativité, parce que les dossiers traités en rapport avec le développement de l'industrie à l'Équateur doivent se faire à l'Équateur en principe. Mais quel est le profil des agents? Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait une évaluation ex ante d'un projet, naturellement, on doit avoir des prérequis en gestion financière.
Alors, vous prenez quelle position? Est-ce que vous êtes d'avis que cette démarche n'est pas opportune?
Bon, je ne pourrais pas prendre le risque de le dire, mais ce qui est vrai, toute entreprise doit arriver à avoir des réformes adaptatives pour renforcer sa capacité aussi.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que Sonville partage cet avis? Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Et bonjour Monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et bonjour aussi à notre invité.
Oui, quel est votre avis?
Moi, j'estime que la priorité n'est pas celle-là. C'est bien beau d'assainir les milliers pour voir ceux-là qui ne méritent pas tout ça. Mais la priorité d'abord devait être accordée au recouvrement des créances qui ont été accordées aux uns et aux autres, surtout la plupart des gens de la mouvance.
Oui, mais Sonville, vous avez suivi notre invité qui a dit qu'il y a une enquête qui a été menée par les parlementaires et les conclusions, au fait, on les a transmises à qui des droits. On a réservé la primaire à celui qui a commandé cette enquête.
Ça fait trop longtemps, il n'y a pas de célérité.
Peut-être à la rentrée parlementaire.
Lorsque les dirigeants de FPI constatent qu'il n'y a pas de célérité, ils doivent faire un suivi. Est-ce que le suivi est fait pour que ces gens-là soient arrêtés? Personne jusque-là n'a été inquiété. Si avec cette commission parlementaire avait fait son travail et transmis les documents au niveau des cours des tribunaux, mais on devait quand même apprendre que certaines personnes qui ont pris l'argent auprès du FPI être peut-être inquiétées, certains emprisonnés, peut-être certaines d'autres renvoyées même dans des prisons. Mais jusque là, rien n'est fait.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, parce que ce sont des préoccupations directes, on revient dans ces studios avec Jean-Claude Kalenga Makunga, qui est l'assistant du DG du FPI. Alors, d'entrée de jeu, comment réagissez-vous par rapport à toutes ces inquiétudes, hein? Les uns, c'est vrai, ils soutiennent parfois la démarche, elle est louable, mais on insiste beaucoup plus pour faire face à ces problèmes de trésorerie. Il a fallu mettre beaucoup plus l'accent, en tout cas faire un suivi par rapport à la commission d'enquête qui a été diligentée auprès des FPI.
Merci. Je suis content parce que les préoccupations des intervenants nous encouragent encore plus. Nous commençons par notre propre action en interne. En interne, c'est lutter d'abord contre des anti-valeurs. On relève le niveau du recouvrement. Nous faisons des réformes en interne et avoir de nouvelles méthodes. Et c'est ce processus. C'est à peine une année que le nouveau comité, la nouvelle direction est là, avec une nouvelle vision de financement. Si nous parlons de recouvrement, vous n'allez les recouvrements aujourd'hui, je pense que la presse devait s'informer et arriver le plus proche du FPI pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, les réformes, nous avons en interne une commission spéciale qui se réunit, je pense, en ce moment, parce que moi je suis ici à la radio, qui se réunit chaque mercredi. Et chaque mercredi pour essayer de relever les recettes. Les 152 millions dont on parle, c'est une accumulation de 25 années, plus de 25 années de l'existence du FPI. Et ces nouvelles méthodes de financement et de paiement, nous payons, ce n'est plus comme il y a quelque temps, où il fallait, on vient, on vous donne un chèque, vous allez le retirer à la banque et financement. Aujourd'hui, c'est fini. C'est directement au niveau des fournisseurs. Et nous regardons les trois fournisseurs, vous proposez des équipements, nous n'allons pas vous payer directement. Nous entrons en contact avec notre banquier, qui entre en contact avec votre banquier et le banquier du fournisseur. Il y a des niveaux de contrôle qui doivent se faire. Et je vous assure que les demandes ne sont plus fantaisistes, comme il y a quelques temps des personnes qui venaient demander. Et aujourd'hui, on parle des politiciens. On parle des politiciens, en fait, ici. Les politiciens sont d'abord des Congolais. Et quel type de politiciens? Quelle est la culture de la dette du Congolais aujourd'hui? Même les petits commerces que les personnes font dans les entreprises, les gens arrivent, la culture du Congolais est difficile. Nous devons avoir de nouvelles stratégies pour essayer de recouvrer cela. Et nous sommes là. Nous avons aussi quelques faiblesses au niveau de la lourdeur de la justice. Les procédures au niveau de la justice et les textes sont faits que le bailleur de fonds ne puisse pas écraser l'emprunteur. Les textes protègent beaucoup plus l'emprunteur et il y a des réformes qui se font. Nous sommes dans les démarches même au niveau, pour encourager au niveau les réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous soutenons certaines démarches.
Mais pourquoi le faire maintenant au moment où, au fait, le FPI est en train de traverser une période de vaches maigres, sacrifier certaines personnes? Est-ce que c'est pas injuste?
Non, les personnes dont vous parlez sacrifiées, en fait, c'est ce qui se... Nous avons une feuille de route avec des valeurs en interne que nous devons prôner, qui sont d'abord le professionnalisme. Vous allez la créativité, le sens d'éthique, le réalisme et la détermination qui nous conduisent aujourd'hui. Nous arrivons, l'entreprise est là, on commence par préparer son invincibilité en interne et puis nous sortons pour l'autre côté. C'est à peine une année. Certes, c'est vrai, nous ne croisons pas les bras parce que tous les mercredis, tous les lundis, les comités de direction se retrouvent pour pouvoir trouver des stratégies.
Parce que si nous restons dans la logique une année, c'est un exercice comptable.
Excusez-moi.
Est-ce que vous avez décelé que la seule faille, c'est parce qu'il y a eu pléthore?
Non, parce que vous avez...
En une année d'exercice comptable.
Non, dans la feuille de route, je vous ai donné les thématiques. Il y a eu plusieurs résolutions de la feuille de route qui ont été réalisées. Ici, c'est parce que simplement, ça touche à une
minorité. À des familles, à des familles qui doivent nourrir beaucoup de bouches. Donc c'est un problème social.
Oui, est-ce que nous pouvons demander une chose et son contraire? En même temps, on nous demande de faire de performance. Le chef de l'État a donné une mission.
La performance, c'est recouvrer, récupérer.
Je dis ceci, une mission de relever cette entreprise. Vous êtes du même côté, quand nous commençons à faire des réformes, qui sont des mesures des fois impopulaires, mais qui doivent être prises. Vous allez en interne. Comment peut-on, par exemple, dans un service comme de la mobilisation de la taxe, qui est notre ressource, il faudrait que les personnes qui sont à ces postes stratégiques et autres répondent et aident. Parce que s'ils ne répondent pas, quelle que soit la volonté des dirigeants, s'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de professionnalisme, je crois qu'on sera dans des difficultés sérieuses. Et aujourd'hui, par rapport au recouvrement, moi j'aurais voulu que vous, de la presse, vous nous aidiez à faire du bruit. Nous avons arrêté ici, nous avons fait arrêter à travers nos plaintes de promoteurs de nationalité étrangère qui ont pris pour deux familles, deux personnes de même famille, 6 millions de dollars.
Si vous l'avez fait pour des personnes étrangères, pourquoi ne le faites-vous pas pour des personnes, des nationaux
mais ça,
qui sont impliqués?
Mais les procédures sont en cours. Je ne peux pas aujourd'hui, à la presse, commencer à vous communiquer les stratégies.
Voilà, on va continuer à échanger de manière citoyenne. Madame Georgine est à Kinshasa. Madame Georgine, bonjour. Voilà, Madame Georgine, vous êtes avec nous. Allô? Madame Georgine, alors on prend Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. En fait, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les sujets au studio. Mais moi, je me dis, en fait, si réellement ce qui est dit par les FPI, c'est juste pour rendre justice et privilégier la méritocratie, tout le monde peut soutenir cette décision. Malheureusement, ce n'est pas ce que les autorités disent, ce qui se fait réellement sur le terrain. Parce que la plupart des fois, nous constatons avec beaucoup de regrets que nos autorités, quand veulent servir les leurs, surtout leurs militants, leurs frères, ils ne manquent pas de termes et de pratiques utilisées sur le terrain. Parce que ça, c'est passé. Aujourd'hui, vous allez constater que dans notre pays, on ne respecte plus les normes pour des engagements ou dans le cadre des offres pour ce qui est des publics dans notre pays. On est en train de constater qu'il suffit que tu sois d'un seul parti politique, le parti de la soi-disant majorité au pouvoir. Il y a des gens qui ont fait des engagements, ils sont engagés.
Amos, on a des petits soucis avec votre ligne. Il y a vraiment une mauvaise communication. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible. Par respect des auditeurs, il est temps pour nous de récupérer d'abord Madame Georgine qui est à Kinshasa. Madame Georgine, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ma préoccupation, c'est par rapport aux procédures, aux nouvelles procédures qui seraient en cours au niveau du fonds de promotion de l'industrie, avec la nouvelle vision de la nouvelle équipe. C'est plus
Madame, peut-être pour vous aider, est-ce que vous estimez comme les autres que cette démarche, elle est vraiment opportune? Il était vraiment important qu'on puisse l'amorcer?
De quelle démarche vous parlez? Nous parlons de nouvelles procédures.
La réforme au sein de l'entreprise, oui. Le licenciement des agents et cadres en ce moment.
Oui, c'est important. La démarche est tout à fait opportune, je pense.
Donc vous estimez qu'elle est opportune?
Oui.
Pour quelle raison? Est-ce que vous ne craignez pas? Parce que plusieurs bouches, vous renvoyez une personne en chômage. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ceux qui sont licenciés, sûrement avec des contraintes sociales, ça risque d'avoir des effets dominos.
Non. En fait, il ne faudrait pas... Bon, moi, je ne viens pas pour juger ou quoi, mais je donne mon point de vue en toute liberté.
Allez-y.
En analysant... Je pense plutôt qu'il faudrait bien analyser la procédure du début à la fin. Il ne faut pas prendre les choses au milieu. Vous pensez que vous voir en amont.
Alors quand vous dites qu'il ne faut pas prendre les choses au milieu, il faut en amont qu'est-ce qu'il y a?
Peut-être que c'est la suite. Moi, je pense que j'avais plutôt une question. Une question.
Allez-y.
Monsieur le journaliste, une question.
À poser à notre invité, oui.
Demander qu'est-ce qui est prévu plutôt. Dans la nouvelle vision, qu'est-ce qui est prévu dans le recrutement? Tous les jeunes aujourd'hui qui sont diplômés rêveraient peut-être de travailler au sein du centre.
Là, je crois que notre invité pourrait répondre. C'est une question directe.
Merci beaucoup, madame.
Alors, c'est une question directe. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que vous licenciez, vous rétrogradez. Est-ce qu'il y a une politique de recrutement?
Voilà. Je voudrais d'abord, avant de répondre à la question de madame Georgine, que nous fassions bien la part des choses. Quand on parle de licenciement ici, dans cette vague, il n'y a que 3 personnes qui ont été licenciées. Les autres 46 ont été dégradées. C'est pour des raisons de sociologie, on se dit, comme vous avez dit, ceci, cela, plutôt que de les licencier, on a plutôt dégradé pour les mettre à la place qu'il mérite. Et vous voulez savoir
si... Avec un effet négatif sur les salaires.
Oui, l'effet négatif est sur les salaires. Ça va aussi dans la maîtrise des charges. Et c'est... Nous ne pouvons pas avoir des personnes qui viennent tourner les pouces dans les bureaux et en train de regarder, de jouer aux cartes devant les ordinateurs, pendant que une ou deux personnes fonctionnent et l'entreprise est en train...
Et vous pensez que cette réforme, en commençant
non,
par
je... la... Oui, allez-y. Voilà, j'étais en train de dire, nous avons la politique de recrutement. On recrute pas parce que il faut répondre aux pressions. Il faut recruter parce qu'on a un besoin réel de recrutement. Il faut que la personne soit affectée. On ne peut pas... Ça, ce sont les recommandations de ces mêmes ateliers qui nous ont été faites. Le recrutement doit être demandé et sollicité pour un besoin précis. Et il y a une commission de passation de marché chez nous qui n'existe pas. Et ils font des appels d'offres. Et vous allez, si vous passez sur Internet, vous trouverez que si nous avons besoin, nous allons le faire passer sur le site qui va bientôt, dans les jours qui viennent, être opérationnel totalement. Donc cette politique, elle est là. En fonction des besoins. On ne recrute pas parce que il faut répondre à la sociologie.
Alors sincèrement, est-ce que vous pensez que par rapport à cette première opération, vous avez pris la décision de rétrograder et de licencier certains agents, ça aura un impact positif dans la trésorerie de l'entreprise?
Oui, il y aura...
Vous assignez ça dans quelle échéance?
Non.
2 ans, 3 ans, 4 ans?
Non, déjà l'impact, il doit être positif. Et c'est pas ça simplement... Ce n'est pas la seule, c'est simplement l'objectif poursuivi. Aujourd'hui, nous avons besoin du professionnalisme. Nous avons besoin de redorer l'image du FPI qui a été ternie.
Et répondre à la mission qui vous a été assignée.
Et répondre, merci beaucoup, de répondre à la mission qui est là. Pour y répondre, il faut avoir des personnes compétentes.
Mais vous avez suivi les jeunes qui n'accèdent même pas à ces crédits. Entre-temps, ces crédits sont accordés à des personnalités politiques. Donc déjà là, il y a un problème sérieux.
Oui, il y a un problème. Les personnalités politiques, c'est vrai. Il faut voir quelles personnalités politiques. Quand il n'y a pas incompatibilité, et l'incompatibilité est prévue par la loi, s'il n'y a pas d'incompatibilité, comment peut-on refuser à un député qui est...
Voilà.
Je vous donne un député qui est commerçant par nature, qui s'est fait élire...
Qui est solvable, il a droit à un
crédit. Parce qu'il est politicien.
Non.
Et aujourd'hui même, la nouvelle équipe met des mécanismes dans les réformes pour des personnes politiquement exposées, les réformes qui ont été et les résolutions qui ont été faites, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire assumer. Je comprends qu'il y a un principe de continuité. Nous, les réformes et la tendance que nous ressentons aujourd'hui, c'est quand même un peu regrettable que des Congolais, on commence des réformes pour essayer de mettre fin justement à ces anti-valeurs, à ces pratiques dépassées, avant même que la personne, elle ne prend une décision. Pour aller dans ce sens, on commence déjà à lui imputer.
Bon, voilà. Alors, si vous le permettez, monsieur Kalenga, on va prendre un auditeur qui nous a rejoint, qui nous a appelé, en tout cas, avec insistance. On ne sait pas quel est le message qu'il veut transmettre. Calvin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Calvin.
Bonjour.
Alors, Calvin, je vois sur le prompteur que vous avez été licencié.
Oui, merci pour la parole. Je voulais poser la question à mon frère Jean-Claude, de surcroît juriste, qui défend la rétrogradation des agents par des résolutions de directeur. Alors que l'engagement de promotion s'est organisé par la loi, le code du travail, la convention collective. Les, la constitution. Mais M. Kalenga, de surcroît juriste, il ne sait pas se référer à des bases juridiques qui donnent mandat aux directeurs ou aux résolutions des directeurs et résolutions des agents de pouvoir revisiter les grades des agents. Qu'est-ce qui puisse nous empêcher de comprendre que c'est un règlement de compte parce que il défend ça pour dire que c'est la revendication des agents. Or, l'entreprise fonctionne sur base de la convention collective. Qu'il précise est-ce que ça a été mentionné ou pas. Parce que, s'il parle qu'on a jambé de grade, nous avons le directeur Ngoya. Ngoya qui a eu des grades. Il a eu des grades en l'espace de 4 mois. Pourquoi, directeur, sous-directeur, après 4 mois directeur.
Alors Calvin,
Madame Safoui là, qui a eu
Calvin
en 1992.
Oui Calvin, on risque de personnaliser parce que c'est, tu sais, dans les médias quand on cite les noms des gens, parfois ça. Mais restez, Calvin, je crois que nous devons. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes un agent qui a été victime aussi, nous dire exactement quels sont les problèmes aujourd'hui qu'a le fonds de promotion de l'industrie. Est-ce que c'est un problème de pléthore des agents ou c'est un problème autre de peut-être de difficulté de recouvrer les créances qui fait que aujourd'hui on a un problème sérieux au niveau de la trésorerie.
Il a engagé 90 agents. Il y a même des gardes de directeurs qui ne sont pas de grades de recrutement. Sur base de quoi peut-on parler de la justice? Mais c'est quand les gars doivent avoir honte. Parce qu'il a engagé des gens en grade de directeur.
On ne se comprend pas, Calvin. Je posais tout à l'heure la question, disons, claire. Je crois que là, vous êtes en train de dévier un peu le débat. Bon, de toutes les façons, c'est le débat qui est lancé. Valérie, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR. Bonjour à notre invité, M. Kalenga. Vraiment, JR, à entendre parler l'invité, j'ai pitié des agents des FPI, je constate qu'ils sont victimes et de la mégestion des différents comités de gestion FPI qui se sont succédés et de la classe politique qui est dirigeante. Pourquoi? Ben, l'invité nous dit qu'on doit rétrograder les gens, on doit maintenant, disons, c'est pour répondre convenablement aux missions, c'est-à-dire que les FPI n'existaient pas encore, on veut créer les FPI maintenant. Comment voulez-vous une entreprise qui a existé depuis très longtemps, est-ce qu'ils n'ont pas un service de formation? S'ils en ont pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et maintenant qu'ils veulent rétrograder, maintenant qu'ils veulent licencier, c'est sur base de quels critères? Est-ce qu'on peut nous garantir que les frères des politiciens, les cousins d'eux, les belles-sœurs, les macangues de X et de tels directeurs seront aussi licenciés, seront aussi rétrogradés? Je vois qu'il y a déjà de l'arbitraire.
Voilà, merci.
Il a voulu un instant.
Oui, Valérie, rapidement, parce que vous avez ajouté un élément, c'est la formation. C'est là où je voulais vraiment dire, à moins que vous ayez autre chose à ajouter.
Ah oui, bon, ok. Maintenant, s'agissant par exemple des politiques qu'on nous présente, que si un politique est commerçant, on n'en disconvient pas. Mais comment voulez-vous que parmi les insolvables, il y ait un grand nombre de politiciens et surtout de ceux qui sont au pouvoir? Vous vous rappelez, une fois, on avait soulevé les dossiers FPI, un ancien ministre des hydrocarbures, qui serait même l'un des gouverneurs, c'est pas moi actuellement dans les Katanga, est sorti lui-même alors que, on ne l'avait pas interpellé. Il a dit que lui aussi s'était endetté, il n'a pas encore remboursé, et tout un tas d'histoires.
Voilà.
Mais non, mon frère.
Voilà, parce que vous évoquez cela, Valérie. Merci beaucoup. Vous l'évoquez. Il y a 2 ans, nous avons fait pratiquement la même émission avec Dossier FPI, où une personnalité politique a appelé pour, au fait, éclairer la lanterne des uns des autres par rapport au crédit qu'il avait obtenu auprès du FPI. Merci beaucoup de l'avoir appelé. Mais parce que vous avez soulevé la question sur la formation, est-ce qu'au sein du FPI, il n'y a pas une section, il n'y a pas une direction qui s'occupe uniquement des formations pour que, finalement, l'institution soit à l'abri des faussaires ou encore des gens qui tournent les pouces, comme vous l'avez dit.
Voilà. Je ne sais pas si je dois réagir
oui.
Je ramasse, je dis simplement que la convention collective ne prévoit pas des enjambements des grades, ne prévoit pas des montées fulgurantes. La convention collective ne tolère pas que des personnes qui font 6 mois, au-delà de 6 mois, passent 2 ou 3 grades. Ça, ce n'est pas la convention collective qui le prévoit. Parce que on évoque ici le droit acquis. Le droit acquis n'est pas un droit absolu. Le droit acquis est un droit relatif. C'est un droit, s'il est fondé sur les faux et des irrégularités, le principe de parallélisme de forme et de l'acte contraire, on y revient. C'est une erreur grave. Vous comprenez, c'est la même erreur que les gens font quand ils vont prendre un certificat de d'enregistrement. Ils disent que 2 années, dès lors que le certificat d'enregistrement, deux années sont dépassées, c'est fini, c'est irréversible, on n'y revient plus. C'est à tort. Si on constate que c'est fondé sur des irrégularités, messieurs, quel que soit ce que vous considérez comme étant un droit acquis, il ne devient plus acquis, il est relatif. On revient dessus. De la même manière, il suffit pas qu'aujourd'hui, parce que moi, Kalenga, je suis DG du FPI, je prends mon fils qui vient de finir son diplôme d'État. Je le nomme directeur au FPI. Une année après, il commence à évoquer le droit acquis. On ne peut pas y revenir. Mais je crois que monsieur le journaliste et l'opinion comprend que celui qui vient, il a l'obligation de revenir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et de la mission.
Mais qu'est-ce qui garantit que cette hémorragie va s'arrêter par la direction?
L'hémorragie, aujourd'hui, c'est quand vous dites hémorragie, j'aimerais quand même vous retourner. Fouillez, allez vous informer, parce qu'ici, nous ne pouvons pas étaler. Qui sont ces personnes? Quelles sont les conditions de leur engagement? Vous comprendrez que vous viendrez applaudir Kitebi, parce que il faudrait que dans ces pays, certaines personnes aient le courage. Je ne peux pas admettre que des gens dans l'opinion puissent à la fois décrier des comportements d'antivaleur, les comportements qu'on est en train de décrier. Depuis là que nous sommes, on décrit les anciennes méthodes. Mmh. Et une personne se dit stop. Je dois y aller. Il faudrait pas qu'on reste dans l'andage de Lingala, qui veut dire que...
Si je suis dans le secret des dieux, je crois que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous éclairer. Semble-t-il que parmi les griefs qu'on a, incriminés à ceux qui sont licenciés aujourd'hui ou rétrogradés, c'est le fait que les prédécesseurs, en tout cas la direction qui a précédé, a nommé des gens au moment où ils étaient déjà sortants.
Bon, ça c'est un des éléments parmi les les 90 personnes qu'on colle à Kitebi. Mais si le ridicule pouvait tuer dans ce pays, il y a parmi les 90 personnes, il y a 52 temporaires qui ont fait 2 années en tant que temporaires. Est-ce que la loi l'autorise?
Avec des contentieux au niveau du travail,
52 temporaires. Il y en a qui ont été engagés.
Parce que la loi dit 6 mois.
Non, il y a parmi les 90 personnes, 25. Regardez leur contrat, la date de leur engagement, vous comprendrez tout. Kitebi arrive, pourquoi on va prendre sur les temporaires, on va prendre une partie et laisser d'autres. Alors qu'ils ont déjà fait 2 années. Ils créent simplement l'équité. Donc, on doit prendre tous ceux-là qui ont fait 2 semaines, 2 années, parce que en les renvoyant sur la rue, c'est des procès. Nous sommes dans un processus. Et on prend cela de manière mesquine pour jeter sur le dos de Kitebi.
Regardez, vous avez régularisé
et quelques personnes, les nouvelles équipes qui arrivent, le PCA, le DG, le DGA, il y a toujours une équipe qui l'aide à faire le travail. Et ce sont d'autres personnes, ça s'ajoute. On me parle de 90 personnes. 90 personnes qui auraient été engagées pendant 15 ans. Eh bien, je veux vous dire, au FPI, en 2008, le FPI de 2008 jusqu'en 2016, le FPI a engagé 408 personnes. Kitebi n'était pas là. Je peux vous donner le détail. Kitebi n'était pas au FPI. La nouvelle direction n'y était pas.
Et depuis qu'il est là, combien il a engagé?
38 personnes seulement.
Est-ce que c'était important?
C'est important parce que il y a des
personnes. Est-ce que l'entreprise avait besoin d'un nouveau personnel?
D'abord, il y a combien de retraités qui sont partis? Il y a des postes vacants. Il y a eu combien de personnes dont le processus de contrôle des titres académiques et autres étaient en cours, qui sont partis. La cellule, on a créé une cellule de courrier avec les nouvelles méthodes de courrier électronique.
Pas parce qu'il faut donner du boulot.
Il faut savoir que c'est des personnes, une cellule de courrier qui prend un nombre d'agents pour les nouvelles.
Qui était vraiment important au moment où on avait un problème de trésorerie.
Important. Non, le problème de trésorerie. Le problème, non, je veux vous dire.
Oui, peut-être que vous pouvez garder ça comme mot de la fin, mais il est temps d'écouter les Félicia et Ingénieur Mangoyo. Félicia, vous êtes avec nous, vous avez droit à une minute chacun.
Ah, bonjour, cher. Bonjour à tous les auteurs de Radio Quartier. Bonjour à l'invité aussi. Une minute, ça ne va rien dire.
Mais oui, parce qu'on est déjà à 50, il nous reste 10 minutes. Il est temps de gérer aussi. S'il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter, et puis la conclusion avec l'invité.
Oui, je dirais que combattre les antivaleurs, c'est une bonne chose, mais il faut des garde-fous parce que il y a un risque de tomber dans l'arbitraire. Parce que la situation des FPI, c'est la situation qui se passe dans toutes les entreprises publiques de ce pays. Et il faudra que au sommet, donc au niveau du gouvernement, qu'il y ait quand même une commission qui puisse superviser tout cela pour voir si réellement on ne va pas tomber dans la terre. Je voudrais aussi savoir, ils vont rétrograder jusqu'à quelle année, ils vont licencier jusqu'à quelle année, pas seulement l'année précédente ou l'année qui les a précédés et l'air arrivé, parce que sinon, dans les entreprises publiques, quand vous prenez les cas chez nous à l'OCC, mais chaque comité de gestion, conseil d'administration qui arrive, ils arrivent avec leurs gens, et ces gens-là, on leur donne des grades, c'est comme ça, c'est depuis des années. Alors vous allez rétrograder tous ces gens-là, et vous allez renvoyer tous ces gens-là, mais c'est un problème très sérieux. Moi, je pense que l'État ou le gouvernement, au lieu d'être occupé aux élections, à la politique, il veut aussi aux entreprises.
Les entreprises publiques sont en train de...
entreprises sont abandonnées.
Merci beaucoup, Félicien. Ingénieur Bangoyo, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Joël.
Quelle est votre contribution?
Joël, ça c'est un... Vraiment, moi, je n'aimerais pas être à la place de notre invité. Vous savez, Joël, la plupart des entreprises du portefeuille de l'État, ce problème-là se pose avec Acuité. Les entreprises dans les entreprises de portefeuille de l'État, on ne respecte plus la procédure en matière de recrutement. Et notre invité a parlé de la convention collective, il a parlé du code du travail, c'est vrai. Mais je vous assure que si vous allez dans toutes les entreprises de portefeuille de l'État, Félicien vient de le dire, le problème est le même. Les comités qui arrivent, on nomme des mandataires. Tous les mandataires qui arrivent amènent leurs gens. Affaire FPI. Nous avons suivi hier. Moi, si je fouille encore dans mes archives, je retrouverai l'extrait du journal où on a parlé de recrutement, de promotion et à regard des noms des personnes concernées. On vous parle d'un tel et la maîtresse de Tifi, un tel et le maître. Nous avons toute une liste là. Alors, l'actuel comité, s'il veut assainir, on ne peut pas lui en vouloir, parce que ce n'est pas normal lorsque les gens qui ont mérité les grades, les gens qui ont été promis normalement, ils sont démotivés, ils sont en quelque sorte découragés lorsqu'ils voient on vous parachute des gens qui viennent parce qu'ils sont proches. Ils sont proches des membres du comité de gestion et on vous le parachute et celui-ci devient votre chef. Ça décourage. Donc je crois que sur le plan de l'assainissement de ce côté-là, je crois que on ne peut pas en vouloir
au comité.
Pourvu que cela se fasse dans les noms.
C'est-à-dire
que qu'il ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Parce que nous savons que quand quelqu'un est nommé, il a toute sa famille derrière lui, mais tout le monde veut être engagé. Qui tombe pas dans les mêmes erreurs, pour que ce ne soit pas, comme tu dirais, déshabiller Saint-Paul
pour habiller
Saint-Pierre.
Merci beaucoup, voilà. Général.
Alors, en ce qui concerne, Gérard, en ce qui concerne l'autre aspect, bête, je crois que notre invité a dit que jusque-là, on a inquiété les étrangers. Mais nous savons que parmi les gens qui doivent
FPI,
il y a aussi
les
ministres, il y a aussi
nous en avons parlé, voilà, merci beaucoup ingénieur Bangoyo. Nous risquons de faire des surplaces. Alors le temps d'accueillir dans ces studios Nico Kalambay. Nico, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs.
Quel est le sujet que nous abordons demain dans Parole aux auditeurs?
Entre 2005 et fin septembre 2016, les Britanniques ont gelé 650 000 euros appartenant à des personnalités visées par des sanctions de l'Union européenne concernant la République démocratique du Congo. C'est le ministre britannique des Finances qui l'a affirmé sur le site du Parlement britannique. Certains observateurs estiment que ceci est un signal fort qui peut inspirer d'autres partenaires de publier aussi les chiffres des avoirs gelés. Qu'en pensez-vous? Nous attendons donc les réactions des auditeurs sur notre page Facebook qui peuvent également nous appeler demain une heure avant le début de l'émission, c'est-à-dire à 10h. Et donc ils peuvent nous appeler au 081 890 49 69.
Merci beaucoup Nico et nous attendons vos messages et nous profitons d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont commenté et lu ces sujets que nous abordons en ce moment avec Jean-Claude Kalenga Makonga, assistant du DG du FPI. Alors Jean-Claude, vous avez suivi, quelle est la réaction?
Oui, je pense que le dernier intervenant Nous demandons simplement de l'encouragement. Il faudrait que des mesures qui sont impopulaires dans l'opinion soient prises. Nous devons apprendre à un moment donné à nous arrêter. Les entreprises publiques et les établissements publics ne doivent pas être considérés comme des œuvres familiales. Vous savez que dans notre pays, on ignore même qu'il existe des dispositions légales. Par exemple, le décret de loi numéro 17 de 2002, du 3 octobre 2002, portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Si aujourd'hui nous ne voulons pas croire, même dans nos textes, ça devient dangereux. Il faudrait qu'à un certain moment, qu'il y ait des âmes qui se disent « stop ». Si j'arrive ici, quelles que soient les vagues qui vont se venir, il faudrait que nous allions de l'avant pour aider l'action du chef de l'État, qui vous donne mission et qui vous donne des assignations à relever telle entreprise. Nous devons commencer par les réformes en interne. Nous commençons par les réformes en interne et puis nous évoluons. Pourquoi? Parce que ici, la grande faiblesse, vous savez que l'année qui s'écoule et qui continue, c'était une année de décréter au FPI, année du recouvrement. Le FPI ne peut pas croiser les bras. Le FPI s'est lancé dans des nouvelles méthodes et dans une nouvelle politique de recouvrement. Je vous invite prochainement à fréquenter le FPI et voir... Nous pouvons même vous laisser...
La rentrée parlementaire, c'est dans 15 jours.
Oui.
Peut-être que ce serait une occasion pour vous de faire le suivi par rapport aux conclusions des enquêtes.
Voilà, il y a les conclusions de l'enquête, mais nous demanderons aussi aux parlementaires...
Et demander les pouvoirs contraignants,
Parce que nous avons appris qu'il y a des députés qui étaient, à la suite de cette enquête parlementaire, ont trouvé qu'il y avait des faiblesses. Donc il fallait modifier... La loi portant création de la TPI. Et aujourd'hui, il y a un texte qui est en cours d'examen et nous espérons qu'au niveau de la rentrée actuelle, ce texte-là sur le privilège du trésor sera adopté et nous permettra d'avoir des moyens de contrainte.
Entre-temps, quels sont vos rapports avec les syndicats rapport à cette démarche?
Les rapports, parce que la commission qui a œuvré dans l'examen, la commission technique qui a œuvré dans l'analyse de ces cas, il y a les représentants du syndicat qui étaient présents, les représentants du personnel, et ces personnes l'ont fait de manière anonyme, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris les noms, mais plutôt les numéros matricules. Et on a...
Est-ce que l'opération continue? Il y a un auditeur qui voulait savoir. Ça va s'étendre jusqu'à quand?
L'opération d'assainissement, à la fois de mœurs, à la fois des pratiques d'antivaleur, ce sont des opérations permanentes. Oui. Ça ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, vous allez dire nous arrêtons, et vous découvrez finalement... En cours de processus, vous vous rendez compte que M. Kalenga qui vous parle, en fait, est un faussaire. Il tombe dans le panneau. On le frappe. On le frappe. Dans la magistrature, on est en train de frapper.
Nous avons parlé de ça. Voilà. D'ailleurs, il y a pas mal de procès.
Et même qu'aujourd'hui, le FPI est en train de quitter de l'aspect d'une entreprise familiale clanique vers une entreprise publique.
Voilà, c'est par ces mots que nous mettons terme à cette émission. Jean-Claude Kalenga Makonga, merci d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes l'assistant du DG du FPI. Pour avoir eu l'occasion d'éclairer la lanterne des uns et des autres, nous remercions également toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Héritier Sidiakala, qui était à la mise en onde. Nico Kalambay, au standard de cette émission, réalisée par Pierrot et la Mégie. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungue Gembo Luabung, Angie, sous la supervision de Martin Sebou-Jangue. À très bientôt.